Bonsoir, bienvenue dans cette tribune de la presse qui se penche cette soir sur trois thèmes. D'abord, la compagnie aérienne congolaise Eobora interdite depuis le week-end dernier d'atterrir à Bruxelles en Belgique. Ensuite, début depuis lundi dernier du recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État en Bougima et au Qatar oriental. Enfin, suspension depuis lundi dernier de la grève des médecins. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Claude Moustoka, il est directeur des publications du quotidien Uhuru, un journal paraissant à Kinshasa. Bienvenue Marie Bafoumania, il est rédacteur en chef à la rubrique Économie à Télétest, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et Jean-Sani Bilanga, il est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Kisangani en province orientale. Interdiction des Eobora d'atterrir à Bruxelles, recensement biométrique des fonctionnaires de l'État ainsi que la suspension de la grève des médecins, tels sont les sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine. Nous allons écouter comment les différents journaux ont traité ces sujets dans cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak.
Bonsoir. L'information relative à l'interdiction de la compagnie aérienne congolaise Eobora d'atterrir à Bruxelles a occupé les colonnes de nombreux journaux paraissant à Kinshasa. Le Phare mentionne en titre que Moustoka calme la tempête. Ce journal signale que le Premier ministre a eu une séance de travail mercredi dernier avec le directeur général de Eobora et l'ambassadeur de la Belgique en RDC. Selon ce journal, ces entretiens ont tourné autour de la déclaration du responsable de Eobora selon laquelle les appareils de sa compagnie seraient interdits de vol sur Bruxelles. De son côté, l'observatoire parle d'une probable fermeture de l'agence de Eobora à Bruxelles suite à la perturbation du trafic aérien entre Kinshasa et Bruxelles, ce qui entraîne des conséquences néfastes au sein de cette entreprise qui risque de renvoyer plus de 300 agents. La référence plus par contre pense que suite à un complot ourdi par la d'administration belge, la compagnie Eobora risque de disparaître. Sur un autre registre, le tri hebdomadaire La Cloche annonce la fin du recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État pour décembre prochain. Selon ce journal, le ministère de la fonction publique regrette le retard pris dans la réforme de ce secteur, terminant cette revue de la presse par la suspension depuis lundi dernier de la grève des médecins. À ce sujet, la prospérité signale que les Blouse Blanche accorde 2 mois au gouvernement pour accomplir le reste de ses engagements, car cette grève n'est pas levée mais suspendue, insiste notre confrère.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons d'écouter. Et Claude Nyamboué Moutoka, je rappelle que vous êtes directeur des publications du quotidien Uhuru, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et votre appréciation par rapport au traitement que la presse a fait de l'actualité cette semaine?
À bien suivre la lecture qui vient d'être faite et les réactions qui se sont manifestées par certains, parler d'une interdiction de Eobora en Belgique, c'est un peu trop parlé. Parce que, selon l'ambassadeur de Belgique, Eobora n'est pas interdit d'atterrir à Bruxelles. C'est plutôt Sao Tomé qui lui a retiré la licence d'exploitation qui lui permettait d'exploiter la ligne Bruxelles-Kinshasa. Heureusement, il a réussi à faire de son entreprise, cette compagnie privée, une compagnie nationale pratiquement, parce qu'il a mobilisé tout le monde, d'ailleurs, et même le gouvernement, pour qu'on puisse y entrer. Le Congo, donc la République démocratique du Congo, dispose de 5 fréquences sur la ligne Kinshasa-Bruxelles et retour, et que 2 fréquences avaient été attribuées par Eobora. La question que je me pose, moi, pourquoi Eobora n'a-t-elle pas exploité ces 2 fréquences qui lui avaient été accordées depuis longtemps pour aller conclure un marché avec Sao Tomé par l'intermédiaire d'un autre organisme?
Claude, oui, merci, nous allons en parler, hein. C'est encore un petit commentaire par rapport à la manière dont la presse a traité l'actualité cette semaine. On va entrer dans le détail dans cette émission. Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes rédacteur en chef à la rubrique Économie à Télé 7, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Comment la rédaction de Télé 7 a analysé la suspension de la grève des médecins?
La suspension de la grève des médecins a été bien accueillie au niveau de notre rédaction, mais les questions demeurent. Hein. Nous nous posons toujours cette question au niveau de toutes les rédactions du groupe de presse Le Potentiel, parce que Télé7 est du groupe Le Potentiel. Nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit tenir compte des revendications des médecins, que chaque fois ils entrent en grève, alors qu'on peut jouer à la prévention de cette situation en intervenant en amont plutôt que d'attendre qu'il y ait des actions du genre cessation de travail pour qu'on puisse négocier et proposer des solutions.
Merci Jean-Fanny Bilanga, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Kisangani en province orientale. Et votre appréciation par rapport au traitement que la presse a fait de l'actualité de cette semaine?
Oui, merci cher confrère. C'est bien dommage que ce sont les journaux de Kinshasa qui sont commentés et qui n'ont pratiquement pas d'impact sérieux hein, dans les chefs de la population bolognaise ou de la province orientale. Mais ça les tienne. Je retiens que par rapport à la suspension des vols de Ewabora Airways entre Kinshasa et Bruxelles, il y a, comme tu dirais, un malentendu, non pas entre la Belgique et Ewabora, mais plutôt entre Ewabora et Sao Tomé Principe, parce que c'est à Sao Tomé Principe qu'on a retiré la licence et Ewabora en a souffert. Nous allons entrer dans le vif du sujet lorsqu'on va débattre, mais il faut dire tout de suite qu'on ne peut pas comprendre qu'une compagnie congolaise aille voler sous la licence de Sao Tomé Principe, alors que le Congo pouvait bien le faire. Et on ne connaîtrait peut-être pas ce qu'on est en train de connaître ça. Oui.
Merci Jean-Paul. J'aimerais juste vous poser la question de savoir quelle est l'actualité qui a dominé la presse à Kisangani cette semaine.
Bon, cette semaine, l'actualité qui a dominé la presse, c'est sans nul doute la démission du vice-gouverneur.
Joseph Banatia.
On en parle dans Joseph Banatia qui a démissionné. C'est un peu ça, on retrouve par-ci par-là dans les salons politiques et même les commis de mortels qui se demandent quelle sera la suite. Bon, Ewabora, bien sûr, a un impact social ici à Kisangani parce que Ewabora dessert Kisangani pour Kinshasa, mais ça n'a pas vraiment beaucoup occupé l'actualité dans les chefs de la population.
Merci, nous passons à notre premier thème ce soir. La compagnie aérienne congolaise Ewabora interdite depuis le week-end dernier d'atterrir à Bruxelles en Belgique. La compagnie Ewabora semblait contourner la liste noire de l'Union européenne, interdisant aux agents congolais d'atterrir en Europe. Elle a conclu cette année un partenariat avec RAC Airways, une compagnie d'Émirats Arabes Unis, et ce partenariat lui a permis d'ouvrir sa ligne Kinshasa à Bruxelles avec un agent sous contrôle des navigabilités du Sao Tomé Principe. Ce sont donc les autorités du Sao Tomé Principe qui, il y a 6 jours, ont suspendu l'autorisation des Ewabora de voler vers l'Europe. Stavros Papayonou, président des Ewabora, accuse les autorités belges d'avoir fait pression sur Sao Tomé pour privilégier son concurrent Bruxelles Airlines. Il répond à Georges Kamouzova.
La ligne de Kinshasa, c'était la ligne la plus rentable de Bruxelles. C'est là depuis toujours, depuis Sabena, depuis toujours. C'est toujours la ligne de Kinshasa qui était la plus rentable. Mais ils disent, oui, elle est rentable, mais il y a quelqu'un qui nous gêne. Qui vous gêne? Oui, ok. On va voir comment nous allons faire. C'est ainsi que leur ministre de transport, il a donné une interview, il a dit, voilà. Mais nous allons étudier la possibilité de voir comment est-ce que nous allons mettre Sao Tomé sur blacklist. Alors, à partir de ce moment-là, quand eux, ils disent que c'est eux qui vont mettre, donc leur but, c'était de nous écarter. Nous allons voir comment nous allons les mettre. Ils n'ont pas dit qu'il y avait un problème de sécurité. Ils n'ont pas dit qu'il y a un problème de sûreté. Ils ont dit, on va voir comment on va les écarter. C'est ça le problème.
Alors, la situation étant ce qu'elle est, comment allez-vous vous en sortir?
Mais nous avons un gouvernement, mais maintenant il appartient à notre gouvernement de prendre aussi les responsabilités.
La Belgique n'a jamais exercé une quelconque pression sur le Sao Tomé Principe dans sa décision d'interdire Ewabora de voler en Europe. Ewabora ne peut pas chercher les boucs émissaires ailleurs pour faire face aux problèmes financiers auxquels elle est confrontée aujourd'hui. C'est en ces termes que peut se résumer la réaction de l'ambassadeur de la Belgique à Kinshasa, Dominique Struy de Suilande. L'ambassadeur belge a réagi après les déclarations faites mardi dernier à Radio Okapi par les patrons d'Ewabora. L'ambassadeur belge est au micro de Kéline Couté.
Je tiens à vous affirmer très clairement, il n'y a de la part de la Belgique aucune interdiction pour Ewa Bora de voler sur Bruxelles. C'est donc faux de dire que la Belgique a pris une décision d'interdire les vols. Les vols d'Ewa Bora sont autorisés par la Belgique, puisque nous opérons dans le cadre des relations aériennes, où chaque pays a 5 fréquences. Sur les 5 fréquences congolaises, Ewa Bora possède 2 fréquences, et donc Ewa Bora a, dans le cadre de ces fréquences, le droit de voler sur Bruxelles.
Ewa Bora peut continuer avec ses vols sur Bruxelles.
Je dirais, Ewa Bora, actuellement, n'a pas de difficulté avec la Belgique. Elle a perdu sa licence de voler sous licence de Sao Tomé Principe. Mais ce n'est pas une décision que la Belgique a imposée. La Belgique n'est pas intervenue dans la matière. Et donc, c'est une décision qui a été prise en dehors de toute consultation avec le gouvernement belge.
Claude Nyemboué Motoka, en tant que journaliste, quelle analyse faites-vous de cette situation?
Mais ce que l'ambassadeur de Belgique vient de dire, c'est beaucoup plus clair. Nous avons traité ce sujet-là. Nous avons dit que nous ne comprenons pas pourquoi, comme l'a dit notre confrère de Kisangani, pourquoi est-ce que Ewa Bora devrait aller chercher Sao Tomé, c'est à peine que le Congolais sache où se trouve le Sao Tomé, chercher la licence de Sao Tomé pour exploiter Kinshasa Brussels, alors qu'elle avait à sa disposition de 2 fréquences notre compagnie nationale, qui ne vole plus. Elle pourrait même demander un peu plus, toi. C'est qu'il y a un problème peut-être entre la compagnie nationale et Ewa Bora. Ça, nous ne savons pas encore. Et nous allons essayer d'enquêter un peu plus pour le savoir. La Belgique l'a bien précisé, on n'a pas interdit Ewa Bora d'atterrir à Bruxelles, mais on a retiré la licence de Sao Tomé. Parce que, semble-t-il, Sao Tomé veut aussi exploiter la ligne Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est la capitale européenne. Sao Tomé, Bruxelles régulièrement. Alors cette licence servirait à ce pays-là plutôt qu'à Ewa Bora qui exploite Kinshasa et tout ça. Je crois que les choses sont plus simples et claires à comprendre.
Oui, bienvenue Marie Bakoumania. Ne pensez-vous qu'en passant par Sao Tomé Principe, Ewa Bora était en train de vouloir contourner la liste noire sur laquelle figurent toutes les compagnies aériennes congolaises?
Oui, déjà là on a un vrai problème qu'une compagnie opérant en République démocratique du Congo puisse effectuer des voyages de Kinshasa, notre capitale, vers une capitale étrangère comme la Belgique, sous licence de Sao Tomé. Il y a un problème. Notre législation est encore en retard. Le Parlement est en train d'examiner la législation en matière d'aviation civile et c'est ce désaveu qui a toujours existé au niveau de l'Union européenne qui fait qu'aujourd'hui Ewa Bora soit victime. Et il faut dire que nous sommes dans un domaine qui exige beaucoup de rigueur. Il s'agit des vies humaines et lorsque l'on prend la décision d'interdire à une société suspecte de voler dans les airs d'un pays, c'est parce qu'on voudrait protéger les vies humaines. Mais là où la chose devient suspecte, parce que la décision est tombée in tempore suspecto, c'est lorsque la presse belge, par exemple, fait état des suppressions d'emplois au niveau de Bruxelles Airlines. C'est à ce moment-là, et puis en même temps, le secrétaire d'État belge a fait des déclarations allant dans le sens de vouloir retirer à Ewa Bora les licences. C'est là que ça devient suspect, mais sur le plan des principes, en tout cas en cette matière, la prudence est la règle. Et moi, je m'inclinerai et on ferait mieux de fournir des efforts sur le plan interne pour que nous puissions améliorer notre législation en matière d'aviation civile.
Donc, vous pensez comme M. Stavros et Ewa Bora que Ewa Bora, en exploitant la ligne Kinshasa-Bruxelles, générait les intérêts de Bruxelles Airlines?
Non, je ne dis pas ça. Ça générait les intérêts de Bruxelles Airlines. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas affirmatif en le disant. Mais je trouve quand même suspect que cela se passe au moment où Bruxelles Airlines commence à connaître des difficultés. Pourquoi est-ce que pendant tout ce temps qui a précédé cette suspension, la Belgique, les autorités de l'aviation au niveau de Schengen ne s'étaient pas rendues compte que Ewa Bora n'opérait pas dans la légalité et que Ewa Bora n'offrait pas beaucoup de garanties de sécurité? Pourquoi ce réveil tardif de la part de cette organisation?
Oui, Jean-Pani Bilanga, ce qui arrive à Ewa Bora, est-ce une surprise quand on sait que les compagnies aériennes congolaises figurent sur la liste noire des lignes européennes? Est-ce que c'est vraiment une surprise?
Non, pas du tout, c'est pas une surprise. Nous avons suivi par le passé comment les menaces pesaient sur les compagnies aériennes congolaises. C'est donc pas une menace, mais ce qu'on ne comprend pas justement, comme je l'ai dit au départ, c'est que il y a vraiment pas un problème entre la Belgique et Ouabora, parce que comme l'ont souligné mes confrères, l'ambassadeur dit qu'il n'y a pas de problème entre la Belgique et le Congo en cette matière-là. Et même la Direction Générale du Transport Aérien, DGTA, a dit qu'il n'y a aucun problème lorsqu'elle a réagi au communiqué de presse de Ouabora. Le problème est ailleurs, moi je pense, parce que dans cette interview-là, le PDG de Ouabora dit qu'il y aurait une campagne d'émigrement qui serait orchestrée par la compagnie belge Brussels Airlines. Donc, Ouabora accuse à la fois le gouvernement belge, à la fois la compagnie belge Bruxelles, mais Ouabora ne dit rien sur sa autonomie principée pour lesquelles il roule plutôt, il utilise la licence. Donc vous comprenez que c'est flou, c'est ce problème-là. Donc le vrai problème, c'est que Ouabora doit régulariser son problème avec sa autonomie principée ou encore revenir à la compagnie nationale congolaise, l'ACT, pour obtenir cette licence-là et ainsi voler sans problème. Donc, en définitive, chers confrères, je pense que la situation de Ouabora n'est pas justifiée par le PDG et qui doit nous expliquer quel genre de dénigrement qui est orchestré par la compagnie belge Brussels Airlines à Ouabora Airlines, qu'on le sache. Et donc, il y a un flou pratiquement. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
Oui, Claude Nyamboué Moutoka, comme vient de le dire Jean-Stani Bilanga, il dit que le problème est ailleurs. À votre avis, le problème peut résider à quel niveau?
Le problème est ailleurs parce que l'ambassadeur de Belgique a été très clair. Ouabora n'est pas interdit d'atterrissage à Bruxelles. Ouabora peut continuer et peut le faire en exploitant les deux fréquences de licence qui lui a été accordée par la compagnie nationale. Voilà, c'est tout à fait très clair. Maintenant, est-ce que entre la compagnie nationale et Ouabora, il y a des problèmes? C'est ce que nous devons savoir et qu'on n'arrive pas à savoir. En tout cas, oublions Sao Tomé. Ouabora a tout intérêt à avoir l'une des cinq fréquences de l'acte, quitte à se comporter convenablement avec la société nationale. Je crois que ça peut aller.
Oui, bienvenue Marie Bakoumania. Et avec cette décision, ne pensez-vous pas que Ouabora pourrait enregistrer des manques à gagner énormes?
Mais évidemment, Ouabora enregistrera des manques à gagner énormes, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas qu'on justifie ces manques à gagner par le fait qu'on mette des vies des gens en danger. Je crois que s'il y a des problèmes techniques qui se posent, on doit avoir le courage de les reconnaître et de regarder la réalité en face. Mais s'il n'y a pas de problème technique et qu'il s'agit des manœuvres de concurrence déloyale, c'est en ce moment-là que Ouabora devra faire prévaloir ses droits. Mais je crois que au niveau du gouvernement, la prudence doit être de règle. La prudence doit être la règle stricte à observer en cette matière parce que les vies humaines sont en danger lorsque l'on accepte que l'on puisse faire voler des avions qui ne présentent pas les garanties de sécurité. Est-ce que c'est le cas pour Ouabora? C'est là la vraie question. Si on a retiré le droit d'atterrir à l'espace Schengen à Ouabora pour ces raisons-là, moi je dis, mieux vaut garder les avions sur Terre, perdre 300 emplois, plutôt que d'enregistrer des morts dans les jours qui viennent, pourvu que Ouabora, dans l'an 5 ans, puisse se conformer aux exigences, aux standards internationaux.
Oui, Jean-Stani Bilanga, quelle solution pouvez-vous proposer à part les facteurs qui ont été évoqués par Claude Nyamboué Moutoka et bienvenue Marie Bakoumania? Quels autres éléments pouvez-vous proposer pour que les compagnies aériennes congolaises soient de nouveau autorisées à voler vers l'Europe?
Bien, c'est simple. Les solutions sont d'ordre technique. Les sociétés congolaises doivent se conformer à ce qui se fait en cette matière sur le plan international. Et comme disait tout à l'heure mon estimé confrère, c'est au lieu de perdre des vies humaines et chercher de l'argent sur la tête de ces gens-là, autant couler les avions au sol lorsqu'ils ne sont pas en règle et garder des vies humaines. Et autre solution, c'est de rentrer au pays et voir la compagnie nationale, LAC,
avec laquelle on peut prendre langue et, n'est-ce pas, signer des accords et voler sous licence des lacs, et là, ça ne poserait aucun problème. Maintenant, vous dites qu'il y aurait des conséquences sociales. Bien sûr que oui, des conséquences sociales, c'est bien bon, mais entre les conséquences sociales et la perte en vie humaine, je pense que le choix est clair. Autant régulariser d'abord la situation technique, la situation administrative, et voler en paix dans d'autres cieux.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Début depuis lundi dernier du recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État à Mbujimayi au Kasaï oriental. Ce sont près de 20 000 agents qui sont ciblés par cette opération. Cet enrôlement, qui est organisé avec l'appui du PNUD, se déroulera durant 30 jours à Mbujimayi, Mouéditou et dans les 16 territoires de la province du Kasaï oriental. Les détails avec Chris Mukand.
C'est un grand moment pour les fonctionnaires de l'État. Tout le monde répond au rendez-vous. Sur la véranda du nouveau bâtiment qui abritera le gouverneur de province, sont assis des opérateurs de saisie devant leur laptop. Cela rappelle un peu l'enrôlement de la CEI. Après les allocutions officielles, le gouverneur de province passe aux formalités, suivi du directeur de province. Un acte tout à fait symbolique. Les chefs de division provinciale font la queue, talonnés par leurs agents. Mais dans la foule, les appréciations diffèrent sur la nécessité d'une telle opération. Les uns estiment que c'est une énième opération inutile du déjà connu, mais sans aucun impact positif sur le social du fonctionnaire de l'État. Pour d'autres, par contre, il s'agit d'une nécessité face au phénomène des agents fictifs qui perturbent l'enveloppe salariale mensuelle. Dans son intervention, le gouverneur de province encourage les agents recenseurs à travailler sans complaisance. Il affirme que l'heure de la vérité a sonné face à un groupe de personnes qui se nourrissent de cette pêche à nos troubles. Il est persuadé que cette opération va assainir la fonction publique sur le plan tant du personnel que des finances de la province. Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Claude Nyamwe Mutoka, quel est à votre avis l'impact de ces recensements sur le processus des réformes de la fonction publique?
Ok, vous savez, ce recensement biométrique là, c'est une bonne chose. Mais je crois que les choses doivent être prises le plus simplement possible. Cette histoire de garder les gens au niveau de la fonction publique, ça crée un peu trop de problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer une fonction publique, c'est-à-dire un service personnel dans chaque direction ou dans chaque ministère du pays? Comme ça, on peut arriver à contrôler le personnel à partir même de l'organisme structurel qui trace la fonction d'un chacun. Parce que, sans appeler les gens, venez, vous êtes de quel service, on vous note, on vous prend par le nom, on ne sait même pas ce que vous faites, ça termine toujours mal. Je souhaiterais vraiment qu'on puisse organiser les choses autrement plutôt que de recenser les gens par le nom. Il faudrait le faire par la fonction, qu'on sache combien de gens il y a dans un département. Même au niveau provincial, ça doit faire la même chose. Mais comme ça a déjà été fait au niveau de la nation, dans ce désordre-là, ben ça va continuer, même en province. Il y aura des gens qui ne viendront que se présenter, mais ils ne seront jamais présents sur le lieu du travail. Ils sont pourtant sur la liste de paie à la fin du mois, et ça va continuer.
Oui, bienvenue Marie Bakoumania. Vous vous occupez des questions économiques à Télé7, dans le groupe Le Potentiel. Et pouvez-vous nous parler des avantages économiques qui pourraient découler de ces recensements biométriques?
Mais écoutez, les avantages sont de plusieurs ordres. On peut tirer suffisamment de ressources financières, de ce que le surplus de fictifs percevait. Mais il y a également le budget qui en souffre. Vous savez que l'enveloppe budgétaire de la République est constituée de plus de la moitié des consommations, des paiements de salaire. Donc vous vous rendez compte que si c'est fait dans les règles de l'art, on peut tirer des substantielles de ressources financières additionnelles pour la République. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment la vraie question. À quoi serviraient finalement ces recensements à répétition? Vous vous souviendrez que chaque fois qu'un ministre arrive au niveau de la fonction publique, il organise son recensement du personnel. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, il y a un recensement de personnel. C'est fait souvent pour justifier qu'il y avait des fictifs. Mais où va l'argent qu'on dégage de ces recensements? À partir du moment où ça n'a pas d'impact sur les salaires des fonctionnaires, à quoi bon continuer à faire des recensements? À quoi bon continuer à faire des réformes si ça ne dégage pas des fonds additionnels pour qu'on puisse les ajouter sur les salaires des vrais fonctionnaires qui sont sur les lieux de travail régulièrement. Je crois que l'idée avancée par mon confrère Claude Nyemwe pourra faire du chemin. Pourquoi ne pas organiser des fonctions publiques à l'intérieur de chacun des ministères, de chacune des administrations? Ce serait beaucoup plus efficace que d'avoir un méga ministère de la fonction publique qui englobe tout le monde et qui finalement ne fait pas ce travail de contrôle normalement, parce que, comme tout le monde le sait, on travaille en RDC juste le jour de la paye de ce maigre salaire, on vient juste percevoir et puis on est reparti. On ne travaille pas chaque jour. Personne ne peut dire que les fonctionnaires sont 8 heures ils travaillent chaque jour 8 heures par jour. Non, ce n'est pas possible. Ça ne se passe que peut-être à la rigueur au niveau de l'OFIDA et de la Direction Générale des Impôts, pas ailleurs.
Oui, Jean-Stanley Bilanga, je rappelle que vous êtes à Kisangani, en province orientale, et vous êtes aussi fonctionnaire de l'État. Et nous savons que la province orientale n'a pas encore été touchée par cette opération des recensements. À votre avis, quelles sont les attentes des fonctionnaires de la province orientale par rapport à ces recensements?
Oui, merci. Voyez-vous, un grand intérêt, parce que lorsque je me suis renseigné ce matin, on m'a dit que la province orientale, c'est la plus vaste de toutes les provinces, mais du point de vue statistique, qui regorge moins de fonctionnaires de l'État. Fonctionnaires de l'État, entendez, un sous-statut, un agent de l'État sous-statut, un agent mécanisé. Et la province orientale, comme vous le savez, a été le théâtre de toutes les guerres, depuis l'indépendance du pays jusqu'à ce jour. En tout cas, toutes les rébellions se sont cristallisées ici. Et avec comme conséquence, le déplacement de fonctionnaires de l'État. Et donc, si ces contrôles pouvaient venir ici, ça serait une très bonne chose, parce que finalement, ça va faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui qualifiés de saisonniers, ou c'est pas moi, des gens qui ne sont pas matriculés, ils sont par milliers dans toutes les divisions, en tout cas, et il y en a qui ont fait 10, 15, 20 ans sans être matriculés. Comment vit-il? C'est pas la mafia. Et donc, ces contrôles, s'il arrive ici, ça va certainement résoudre ces problèmes, et donc il y aura des fonctionnaires de l'État de ces vraiment donc, et ça fera en sorte que c'est de ce côté-là la fonction publique soit aérée et que l'argent puisse effectivement être ajouté dans les salaires de misère qu'on a aujourd'hui dans la fonction publique. Mais alors, maintenant, vous dites que c'est bon, comme l'ont dit les amis, mais pour quels résultats finalement? Une énième opération, vous l'avez dit, mais pour quels résultats? L'argent qui sortira de l'argent qui a gagné, ou c'est pas moi le surplus, va servir à qui? Est-ce que ce n'est pas simplement une façon pour un ministre qui passe de faire du folklore afin de se faire parler de lui dans la presse? Et un point c'est tout, parce qu'on ne sent vraiment pas les résultats auxquels on aboutit après ces contrôles-là.
Claude Nyemwe Mutoka, ne pensez-vous pas que cette démarche pourrait permettre de combattre le problème d'effectif?
J'aurais voulu vraiment que cette opération aboutisse à quelque chose. Mais personnellement, je vous dis, je ne sais pas à quoi cela aboutit. Si c'est à connaître le nombre de gens qui sont inscrits sur la liste des personnes qui travaillent dans l'administration de l'État, c'est possible qu'on va le faire. Mais c'est si pour savoir qui travaille dans l'État, effectivement, quelle est sa fonction et comment il est payé, je crois qu'on ne réussira pas avec cette opération biométrique.
Oui, bienvenue Marie Bakoumaya, parce qu'apparemment vous êtes sceptique par rapport aux résultats qui pourraient découler de cette opération. Qu'est-ce que vous avez comme proposition?
Oui, justement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut une réforme en profondeur, il faut une réforme structurelle allant dans le sens de créer ce qu'on appelle les directions des ressources humaines au niveau de chaque administration. C'est à ce moment-là que l'on pourra bien gérer le nombre de on pourra bien gérer les personnels de l'administration publique, on pourra connaître leur nombre et on pourra savoir qui fait quoi. La confusion actuelle avec un méga ministère de la fonction publique ici à Kinshasa ne profite pas à une administration efficace, d'autant plus que cette administration elle est non seulement elle n'a pas l'emprise sur l'ensemble des ministères, mais également elle n'est pas dotée de capacités nécessaires pour gérer un pays pays à la dimension de la République démocratique du Congo. Une décentralisation, une déconcentration au niveau des administrations, des différentes administrations, serait la solution la mieux indiquée, ainsi que l'avait soulevé quelques instants Claude Nyembwe.
Jean-Tony Bilanga, ne peut-on pas craindre une certaine influence politique dans ces recensements, car il y a des sources qui signalent que quand il s'est agi de la province du Maniema, certaines personnes recensées l'ont été grâce à des influences politiques, notamment des recommandations.
Bien sûr, ça on l'a dit ici, tout dernièrement, je vous donne un cas. À la Bégirade, qui connaît le problème sécurité personnelle, tous ceux qui sont là sont de gens qui sont pas encore engagés, c'est-à-dire qui ne sont pas sous statut, mais qu'est-ce qui a été fait? C'est un véritable clientélisme politique. Un certain directeur de cabinet adjoint de l'actuel ministre a tout simplement fait venir des agents à partir de Kinshasa. Vous vous rendez compte, alors qu'il y en a ici qui attendent à être mécanisés, mais monsieur, et ça c'est vérifiable, fait engager les gens à partir de Kinshasa et les envoie ici. Et ceux qui sont ici se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on attendait qu'on soit engagé, mais voilà ce qui se passe. Et parmi ceux qui sont venus de Kinshasa, et vous allez voir que la plupart, ce sont les frères des tribus, hein. Et donc, ce que vous dites là est vrai. Et je vais vous dire, cher confrère, que vous savez, la province orientale a la chance d'occuper, de briguer ce ministère. Il y a eu, pendant la Seconde République, Idam Dituo, le sénateur, et que vous connaissez bien. Mais pour la population ici, pour les fonctionnaires, il passe pour les meilleurs ministres de la fonction publique. Parce qu'à son époque, il a arrangé pas mal de situations administratives de ses frères de la province orientale. Quand je dis ses frères, ça signifie les habitants de la province orientale, toutes tribus, toutes provinces confondues. Mais par contre...
Donc il passe pour les meilleurs ministres parce qu'il a servi ses frères de la province orientale, pas toute la nation.
Non, j'ai dit ceci. La population, je parle de Kisangani, mais sur ce fond de Kisangani, je sais qu'il a certainement fait comme il a fait ici ailleurs. J'ai dit quoi? J'ai dit que les fonctionnaires de Kisangani, c'est la situation que je maîtrise mieux, les fonctionnaires de Kisangani ont trouvé que ces ministres-là, franchement, a fait de très bonnes choses. À son époque, il y a des situations administratives qui s'étaient vraiment arrangées. Je ne dis pas qu'il a perdu les frais de sa tribu, non. Les fonctionnaires de la province orientale, c'est-à-dire toutes les tribus confondues, hein, je ne dis pas qu'il a perdu ses frais. Bon, je suis certain qu'il l'a fait également dans d'autres provinces. Mais par contre, aujourd'hui, je viens de citer le cas de tout à l'heure, un directeur de cabinet qui se permet de faire ce qu'il a fait là, c'est pas correct. Et il y a eu M. Ikenge qui venait d'être remplacé par Botoro. Mais lui aussi, c'était un véritable show. Il a fait dire à la presse que les choses allaient s'arranger, etc. Mais ici, on n'a connu aucun arrêté de nature à aider les fonctionnaires à retrouver leur droit. Voilà.
Merci. Nous passons à notre dernier thème ce soir. Suspension depuis lundi dernier de la grève des médecins. Les médecins de Kinshasa ont décidé depuis lundi dernier de suspendre leur mouvement de grève entamé depuis le 31 août dernier. Décision prise lundi au cours des assemblées générales de toutes les sections du SINAMED, des syndicats nationaux des médecins de la capitale. La grève n'est pas levée, mais suspendue, insiste le docteur José Kamumangi. Il est secrétaire sectionnaire principal du SINAMED. Les blouses blanches accordent 2 mois au gouvernement pour accomplir le reste de ses engagements, notamment la publication de l'arrêté consacré à la rémunération du médecin congolais. Explication du docteur José Kamumangi au téléphone des produits Moussouabo.
Les médecins ont suspendu leur grève pour une période de 2 mois qui court jusqu'au 31 décembre 2009.
Alors, quelles sont les garanties que vous avez que le gouvernement va tenir le dernier volet qui reste de ses engagements?
Bon, nous misons sur la bonne volonté du gouvernement. Il nous reste la signature d'un arrêté et la signature de liste de nomination au grade suivant la nouvelle nomenclature qui devra être signée par le président de la République. Alors, étant donné qu'il y a eu quand même quelques avancées que nous avons eues. La délégation qui était à la présidence de la République a été reçue et que nous avons eu des promesses fermes qu'on va tenir compte de nos revendications. C'est ainsi que les médecins, pour leur part, ont trouvé qu'il fallait suspendre la grève et laisser au gouvernement le temps de pouvoir concrétiser les promesses telles que reprises dans notre protocole d'accord.
Claude Nimwe Mutoka, je rappelle que vous êtes directeur des publications au quotidien Uhuru, c'est un journal paraissant ici à Kinshasa. Et comment la rédaction des Uhuru a analysé la suspension de la grève des médecins?
Nous avons dit dans le journal que c'était une bonne chose. Une bonne chose parce que les médecins sont partagés entre le serment d'Hippocrate, qui leur dit d'assister tous les malades, sans contrepartie, sans nécessairement contrepartie de la monnaie. Et puis, il y a aussi, d'autre part, une exigence d'insertion sociale. Parce que même le serment d'Hippocrate dit qu'un médecin doit toujours être propre, en cravate et tout ça. Mais comment va-t-il être propre s'il n'a même pas les moyens de s'acheter le savon, nettoyer ses habits et tout ça et tout ça. Bon, nous avons salué la fin de la grève au journal Uhuru. C'est une très bonne chose. Dans la mesure où on peut s'occuper sérieusement des malades. Une grève qui dure sans solution, ce n'est pas bon. Je crois que ce que le médecin vient de faire, c'est un geste tout à fait normal. Et nous applaudissons parce que maintenant on va s'occuper un peu des cas qui sont très très préoccupants. Et l'État aussi va faire de son mieux pour essayer d'y apporter des solutions. Sinon, comment continuer avec une grève si vous savez bien qu'à la fin du mois ou à la fin de l'autre mois, s'il n'y a pas de budget, on ne peut pas le faire. Mais votre serment vous interpelle quand même. C'est ainsi que je crois que le respect du serment d'Hippocrate, c'est une bonne chose que le médecin applique maintenant en reprenant leur blouse et travaillant en toute conscience. Et nous espérons que, par ailleurs, le gouvernement de la République va faire de son mieux pour essayer de respecter tant soit mieux quelque chose, au moins 7 sur 10 de leurs exigences. Hein. Je crois que le dialogue doit continuer.
Bienvenue Marie Bakoumania, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la rubrique Économie à Télé7, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa, et les médecins réclament entre autres la publication de l'arrêté consacré à leur rémunération. Et vous pensez qu'avec un budget d'environ 5 milliards de dollars, les médecins pourraient obtenir gain de cause?
Non, avec le budget actuel, on ne peut pas s'attendre à mieux que ce qu'on donne actuellement aux médecins. Mais il y a plutôt des vraies questions. Comment est-ce que, pour que l'on puisse publier le décret portant ventilation sur la nomenclature de grade au niveau de cette corporation, on puisse aller en grève? C'est ce qui démontre l'irresponsabilité du gouvernement. Le gouvernement a démontré à la place publique qu'il n'a pas à cœur les problèmes du social de la population. On peut pérorer tout autour des salaires. C'est un débat interminable avec un budget de misère comme nous l'avons dans un pays de 60 millions d'habitants, un budget de 5 milliards d'environ 5 milliards de dollars financé à plus de 50% par l'extérieur. On peut faire des débats tout autour. On n'avancera pas. Mais des choses simples comme celle-là, des choses qui sont apportées de nos dirigeants, pourquoi est-ce qu'ils ne les font pas? Ils attendent à ce que les gens aillent en grève pour qu'on puisse promettre qu'on va le faire. Les médecins, s'ils ont accepté de répondre, de suspendre la grève, ils insistent bien de suspendre la grève, c'est parce qu'ils ont constaté que les dégâts étaient énormes. Mais qui payera cette ardoise? Toutes ces personnes qui sont mortes, qui prendrait en charge cette responsabilité? Et évidemment, c'est le gouvernement. Hein, c'est au passif du gouvernement que nous sommes appelés à penser tout cela. Et ce n'est pas bon pour un gouvernement qui a la charge de gérer tout un peuple et sous ces secteurs précis de la santé. Eux-mêmes, malheureusement, on constate lorsqu'ils sont malades, lorsque leurs enfants sont malades, et ils prennent directement un avion, ils vont en Afrique du Sud. On peut les accuser, les soupçonner, on peut les taxer de vouloir exterminer tout un peuple en mettant les médecins dans les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre.
Jean-Sani Bilanga, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Kisangani en province orientale. Est-ce que la grève des médecins à Kisangani a causé des dégâts comme ici à Kinshasa?
Pas du tout, hein, pas du tout, je dois être sérieux, pas du tout. Disons que ici, si elle a été observée, c'est de façon tout à fait mitigée, parce que, voyez-vous, ce sont les hôpitaux officiels qui en pâtissent. Vous savez que les gens de la blouse blanche ont des officines à gauche et à droite, hein. Ils travaillent chez l'État, aux cliniques, mais le soir, il va dans sa
par sa clinique privée. Donc, ça n'a pas été observé avec acuité. Mais il faut quand même dire que par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, c'est bien regrettable que cela puisse arriver autant de fois. Et ça devient finalement un jeu de ping-pong. Aujourd'hui, il y a suspension, demain c'est la grève qui reprend et ainsi de suite, il n'y a pas de solution. Mais je pense que les deux parties, le gouvernement et les amis de la blouse blanche et d'autres médecins, devront finalement dire, écoutez, on arrête, on trouve une solution durable par rapport à cela. Un confrère, le confrère venait de poser la question, bien sûr la grève est arrêtée, mais tous ces morts qui ont été occasionnés par la suspension, l'arrêt des travaux de service, qui va indemniser les parents, qui va soulager la peine des parents, voyez-vous, c'est ça le problème. Disons que je ne condamne pas les médecins, ils doivent vivre décemment pour rendre très bien service à la population, mais d'autre part, ils sont également liés par le serment d'Hippocrate, n'est-ce pas, qui leur donne pas tous les droits, n'est-ce pas, de suspendre les services pour que les gens meurent. Donc, en définitive, maintenant qu'il y a suspension de cette grève, nous pensons que dans les deux mois qui suivent, le gouvernement fera de son mieux pour qu'il puisse rendre service à ces vaillants Congolais qui rendent énormément service. Mais pour combien? Ils vont obtenir combien de ces 5 milliards de dollars? 5 milliards, les confrères l'ont dit. Ça va servir à quoi? Parce qu'il n'y a pas que les médecins. Il y a les enseignants, il y a les enseignants de l'université, de l'école primaire, et les journalistes, etc. Mais quand tout le monde va imiter les médecins, c'est-à-dire les journalistes aussi, se disent, mais écoutez, parce qu'on n'est pas bien payé, allons en grève, séchons les services. Qu'est-ce que ça va donner dans ce pays-là? Donc, nous sommes devant une responsabilité historique, les gouvernements, mais aussi les fonctionnaires de l'État, y compris les médecins.
Bienvenue Marie Bakoumania. À votre avis, quelle est la solution adéquate pour mettre fin à ce phénomène des grèves à répétition des médecins?
Ben la solution, c'est, il appartient au gouvernement de trouver cette solution. Et moi, s'il faut que je puisse dire un mot au gouvernement, c'est de demander à ceux qui sont au pouvoir de réduire leur train de vie, hein, de faire en sorte que la répartition de la richesse nationale soit équitable. Mais malheureusement, ici, le problème, ce qui se pose, c'est que la richesse, on n'a pas de richesse. On est en train de se partager la pauvreté. Alors, il faut que le gouvernement crée des conditions pour que nous puissions avoir suffisamment de ressources financières à nous distribuer. Et le peu qui existe, il ne faut pas que quelques-uns, on parle de 300 personnes qui sont accaparent, qui considèrent que c'est un patrimoine qui leur appartient à eux seuls, il faudrait que eux se départissent de ce comportement et redistribuent équitablement. À partir de
vous faites allusion à qui?
À ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui se succèdent durant des années à l'exercice du pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont connus. Hillary Clinton l'a déclaré, on les connaît, ils sont une dizaine actuellement, mais ils étaient avant, il y avait plus ou moins 290, je peux avancer un chiffre pareil. Mais c'est pour dire que lorsqu'il y aura une redistribution équitable de la richesse nationale, lorsque nous sentirons que ceux qui sont aux affaires ne changent pas de train de vie du jour au lendemain, lorsque le Congolais sentira que pour être riche, il ne faut pas aller aux affaires et qu'on peut être pauvre tout en étant aux affaires, à ce moment-là, les médecins n'iront pas en grève. Ils vont se dire, il n'y a pas d'argent, nous consentons tous des sacrifices. Mais lorsque nous, tout le monde constate que les uns consentent des sacrifices et les autres s'enrichissent à vue d'œil, à ce moment-là, il y a de quoi s'interroger et à ce moment-là, il y a de quoi avoir encore d'autres grèves beaucoup plus sérieuses que celle-là.
Merci, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Dieudonné Nyangasa était à la technique, Kéline Koupé à la réalisation, assistée de Samuel Kachak, devant ses micros, Guy Massé qui vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Thank you.